Et je vous résume très brièvement ce que nous avons vu hier. C'est que le texte de l'Exode, et en particulier au chapitre où nous commençons, c'est-à-dire le chapitre 13, la paracha de Béchalar, impute au Pharaon le fait que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte. Vaïhi, Béchalar, Pharao et Aram. À partir de cette question, nous avons vu que la réponse donnée par le Midrash est qu'en réalité, il s'agit d'une partie du peuple qui, n'ayant pas l'initiative de sortir d'Égypte par lui-même, a été contraint de le faire par le Pharaon. Et vous comprenez vous-même, du point de vue de l'identification des événements, à quelle tendance dans l'histoire de la société d'Israël cela correspond chaque fois que ces mêmes péripéties se retrouvent dans l'histoire. À partir de cette première remarque, nous avons vu qu'en réalité, le Midrash élargit beaucoup plus ce problème d'une catégorisation des différentes parties de l'identité du peuple d'Israël, selon un schéma de l'enseignement de la Kabbalah, qui est que dans l'âme individuelle de chaque personne en général, il y a effectivement différentes halakim, différentes kohot, comment dire ça, différentes fonctions, et que cela se retrouve dans une identité collective à l'échelle d'un peuple. Et par conséquent, ce n'est pas simplement une division en deux parties, ceux qui ont pris eux-mêmes l'initiative de quitter l'exil et de sortir d'Égypte, et ceux qui ont été contraints, mais en réalité quatre parties différentes, qui sont d'ailleurs cinq, pour appeler des schémas. Des événements constitutifs de l'identité d'Israël apparaissent, et bien tout se passe comme si ce schéma va jouer et que apparaît dispersion, si vous voulez, c'est pas exactement dispersion, en différentes attitudes. Et là-dessus se sont greffés un certain nombre de questions importantes qu'on va laisser un peu en filigrane, si vous voulez, mais qui se retrouveront à propos des différentes analyses. Donc, à partir de ce premier schéma introductif, apparaît d'abord un problème de vocabulaire, c'est que les niveaux, disons, inférieurs de cette identité sont appelés par le terme « âme », qui signifie le peuple. Les niveaux supérieurs sont appelés par le terme « Bnei Israël ». Quelle est la différence? C'est que « Bnei Israël » désigne, à proprement parler, les Hébreux descendants des patriarches se trouvant dans l'exil d'Égypte, et que le terme de Ram renvoie de façon plus générale à ce que d'autre part le texte appelle le Hebrav. Vous avez un autre terme d'ailleurs à propos non pas de la faute du veau d'or mais de la réclamation de la viande dans le désert, c'est le terme de Asafsouf. Asafsouf, ça veut dire un conglomérat, je ne sais pas comment dire, une foule, un ramassis, mais enfin, ces mots français ne recouvrent pas exactement les termes hébreux. Et d'où une question de Binyamin, qui n'est pas là d'ailleurs. C'est bien Binyamin qui s'appelait. C'est à cause de lui qu'on a parlé de Mardoché. Sur la nécessité, au moment de la sortie d'Égypte, d'introduire dans l'identité d'Israël tous ces hommes provenant d'autres peuples, mais qui étaient asservis au même esclavage, et qui ont, si vous voulez, eu cette expérience à l'échelle individuelle, de cette dialectique galoute geoula, asservissement, délivrance, donc l'expérience, disons, existentielle qui fait la foi d'Israël, et que par conséquent, ça nous explique pourquoi Moïse prend l'initiative de les intégrer. Il n'y a pas simplement une que l'on nous raconte en passant, il y a quelque chose de fondamental, de nécessaire, de plus près, ne plus sortir que si la RRA. Cette question, si vous voulez, nous allons la repousser à un autre livre, parce que on n'a pas préparé les textes de référence. Simplement, on m'a posé à la fin de la séance d'hier, mais je vous demanderai si vous avez des questions individuelles, ne me les posez pas après le cours, mais pendant le cours, que ça serve à tout le monde. Et puis en général, c'est que dès que j'ai fini le dernier mot du cours, le robinet est fermé. On ne peut plus l'ouvrir.
Ken? Je reste avec ma question. Quand même responsable des erreurs, c'est ce que vous avez dit.
Ah oui.
Et que rendre la culpabilité du
veau
d'or uniquement aux
erreurs,
moi ça me gêne.
Écoutez, je comprends votre gêne, et nous l'avons tous partagé dès que nous avons commencé à étudier ces problèmes. Rassurez-vous, on est passé par là. Mais vous aurez votre réponse, mais il me faut un cours entier, et j'ai besoin des textes. Alors les textes n'ont pas été préparés. Il est possible qu'ils existent dans un bureau fermé, je ne sais pas, mais ça va s'ouvrir quand la grève aura fini. Dès que nous aurons les textes, on étudiera ce problème. Okay? Et vous voyez, d'après le principe suivant, c'est que l'histoire d'Israël est mystérieuse, à travers tous les fronts.
et y compris le temps contemporain. Pour les historiens et les sociologues, les anthropologues préoccupés de ce problème, ils rencontrent les manifestations historiques, humaines, sociales, politiques des Juifs en général, du peuple d'Israël en général, comme un véritable mystère qui n'entre dans aucune catégorie cohérente des lois qui régissent les sociétés. Bon. Nous allons partir aussi bien de cette remarque. Je pense que vous avez tous plus ou moins expérimenté ça. C'est un casse-tête, j'allais dire chinois, c'est pire que ça, c'est un casse-tête juif. Bon. Et ceci dit, nous avons l'enseignement de la Torah à ce propos. Et le principe que, si vous voulez, que nous choisissons dans ces études, et qui a été mis en forme, d'abord c'est le principe du Midrash, mais mis en forme par Judas Lévi dans le Kuzari, et surtout développé par le Maharal, c'est pourquoi c'est lui notre référence, et je voudrais vous l'expliquer très simplement, c'est que on ne peut pas comprendre ce que le texte dit des événements du commencement de cette même identité si on n'est pas capable de l'identifier dans l'existence. Mais inversement, on ne peut pas identifier dans l'existence, et ça veut dire dans le temps contemporain à chaque fois, si on ne comprend pas ce que le texte a dit. Ça veut dire l'un éclaire l'autre. C'est-à-dire le texte éclaire la situation historique que nous vivons, mais c'est l'expérience de cette situation historique qui fait comprendre le texte, et réciproquement. Vous comprenez très bien qu'il y a un cercle vicieux. C'est comme ça qu'on dit, hein? Et ce cercle vicieux ne peut être brisé que par l'enseignement de la tradition, qui nous aide à identifier de quoi il s'agit. Vous comprenez? Et je vais donner un petit exemple. Une des questions fondamentales à propos de la faute du Vaudor, et qui est vraiment un étonnement énorme, c'est comment se fait-il que 40 jours après l'événement du Sinaï, où ce peuple tout entier assiste à la révélation du Dieu dont parle la Bible, qui donne la loi, les 10 commandements, qui donne la Torah, que 40 jours après se produit une scène d'idolâtrie. C'est incompréhensible. Vous comprenez le problème? Bon, voilà, c'est un des exemples parmi d'autres. Revenons à notre sujet. Comment se fait-il que 7 jours après la sortie d'Égypte, où ce peuple a eu expérience de la providence de Dieu pour lui, il est pris devant la mer Rouge, l'armée égyptienne étant derrière, je reviens au sujet, de la panique que nous raconte ce texte. Est-ce qu'entre-temps, au bout de 7 jours, il a perdu la mémoire, il ne sait plus qui il est, quel est le sens de son histoire? Vous comprenez, c'est mystérieux, étrange à première vue. Et ce n'est que l'identification patiente et persévérante du sens des événements qui nous fait comprendre et le texte et la réalité. Je pense que j'en ai dit suffisamment sur ce problème de méthode, mais il est bien évident que ça ne peut pas être reconstitué ni par l'imagination ni par la raison. Des événements historiques dans leur signification ne peuvent pas être réinventés pour être compris. Nous avons besoin d'une mémoire, et c'est l'objet de l'enseignement traditionnel de communiquer cette mémoire qui permet l'identification et donc la lecture du texte, et réciproquement, à l'aide de la lecture, l'identification des événements. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Je pense que vous êtes déjà familier à ce principe de méthode. Oui? Réagissez un peu, je ne comprends pas. Non? Ça ne va pas? Okay. Vous avez des questions là-dessus? Ah, tout va bien? D'accord. Non, quelque chose qui ne va pas, c'est l'histoire des chaises. On peut envoyer un commando de volontaires. Ah, on a été cherché. Alors on va faire une petite absaquette en attendant. Voilà. Simplement, on m'a posé une question de langue à propos de l'expression Erevra. Je vais l'expliquer aujourd'hui, mais le fond du problème, nous l'étudierons quand on aura les textes. C'est d'accord? Voilà, nous avons en hébreu la racine Aïn, Resh, Bet, qui a plusieurs significations. En fait, je ne vais pas aller trop loin dans le détail de l'analyse, mais pour ceux d'entre vous qui connaissent l'arabe, vous savez qu'il y a 3 Aïn différents dans les langues sémitiques. Alors, ce qui fait que les significations que je vais vous donner en hébreu sont récapitulées sur la racine Aïn, Aïn, Resh, Bet, comme si c'était toujours le même Aïn. En réalité, la différence de sens vient de ce qu'il y avait primitivement dans la langue fondamentale, des racines différentes, parce que la prononciation du Aïn était différente. Bon, je referme la parenthèse de... Vous voyez qu'on a besoin d'une mémoire pour éclairer ces problèmes. Le sens fondamental, c'est l'idée de mélange, la arôme, mélange. Et d'ailleurs, on va retrouver ici, dans Erevra. Et puis, vous avez le mot Erev, qui signifie le soir. Le crépuscule du soir. Alors, j'explique tout de suite. Le crépuscule du matin se dit Boker. Vous voyez, la racine, les Boker, ça veut dire distinguer. Le matin, c'est le temps où on commence à distinguer les formes à la fin de la nuit. Le soir, c'est le temps où les formes commencent à se mélanger. Vous voyez quel est le lien de sens entre les deux rêves. Vous avez un autre sens de rêve qui signifie, alors à ce mot de soir se rattache le rêve qui est le corbeau, l'oiseau du soir. Et c'est vraiment un autre aïe. Mais enfin, vous voyez comment les significations s'organisent. Vous avez un autre sens qui est le doux. Par exemple, Kol Arev, une voix douce. J'avais entendu chanter des gens qui ont Kol Arev. Mais c'est un doux très particulier. C'est pas sucré. La douceur qui vient du mélange des choses contrastées. Vous voyez, ça se rattache toujours à la même idée. Par exemple, vous avez un autre mot qui signifie doux, c'est Na'im. Et Na'im a toute autre consonance que Arev, pour dire la Bon, vous avez encore un autre sens, qui est celui de le sens d'un gage. Être gage pour quelqu'un d'autre. Là, je ne vois pas comment expliquer ça. Je chercherai un jour, je vous donnerai un télégramme, okay, le lien. Par exemple, Eravon, un gage. Okay.
Il n'y a pas aussi une otage.
Eh bien, c'est ça, otage, c'est le gage. Okay. Bon, voilà grosso modo. Mais le sens fondamental, c'est pas le grand soir, comme diraient les marxistes, mais c'est le grand mélange.
Parce que le gage, ça revient à l'idée de...
Ah, c'est... Non, ça c'est... Ah, il est très... Bon, voilà pour cette question. Hein? Les Arabes. Oui, j'ai pas voulu le dire. Nous disons ça à la prière de tous les soirs. Ma'arim, Aravim, Bechachma. Qui mélange les Aravim avec sagesse. Parce que c'est pas... Bon, alors, revenons au problème. Je relis le premier verset de notre paracha. C'est rien. Nahon, oui, c'est une approximation brouillée de l'identité hébraïque. Bon, si vous voulez, les différents... Non, ça nous prendrait trop loin. S'il nous reste une heure à la fin du séminaire, je me rappellerai les différents sens de cette racine-là, qui est importante, puis c'est l'idée de l'être hébreu. Il y a le passage, mais il y a l'embryon. Et puis il y a ce que nous allons voir là. Ce qui passe la mer. Mais ça, on va voir un peu plus tard. Et même probablement à ce point. Alors, je reprends le premier verset, et il vient le texte hébreu sous les yeux, parce que c'est sur la forme du texte hébreu, sur trois mots d'ailleurs, que le midrash que vous avez là, donc, va intervenir pour expliquer ce détour que le peuple va faire sous la conduite de Moïse, alors qu'il pouvait entrer directement par le chemin de la côte, vous rappelez qu'il s'appelle Eretz Pelishtim, il va y avoir un détour avec comme première étape le passage de la mer Rouge, et puis, deuxième étape, l'événement du Sinaï, de la promulgation de la Torah au Sinaï. Et la question qui se pose à nous dès la lecture du verset, c'est pourquoi il était nécessaire de faire ce détour. Quelle est la motivation qui a été donnée par la Torah pour faire ce détour? Je vous rappelle brièvement la conclusion à laquelle on était arrivé déjà hier, c'est que, alors qu'on s'attendait que la Torah nous enseigne explicitement qu'il était nécessaire de passer par le Sinaï pour recevoir la Torah, aucune allusion à cela, et c'est une toute autre raison qui nous est donnée. Et la raison nous est apparue déjà hier, une sorte d'impréparation, de vulnérabilité du peuple au moment de la sortie d'Égypte, qui ferait que, en tout cas dans sa plus grande partie, le peuple aurait renoncé à continuer l'aventure de la sortie du monde ancien de l'exil pour le monde nouveau d'Eretz Israël et retourner dans la situation antérieure. Et j'ai relié déjà hier ces deux points. C'est précisément parce qu'il y a eu cette impréparation que le fait que la Torah doit être donnée au désert a été devenu nécessaire. Sinon, la Torah aurait été donnée à Tzion, pas au Sinaï. Puisque le verset nous dit très clairement « Kimi Tzion, tetzé Torah ». Vous voyez le problème. Si vous voulez, je vais quand même... Je vous signale d'ailleurs une opinion de Judas Lévi concernant le Sinaï,
C'est-à-dire concernant la question de savoir si le Sinaï fait partie des rêves d'Israël ou pas. Là, et c'est un problème contemporain. Vous voyez que l'histoire hésite. Elle a hésité plusieurs fois. Il y a eu déjà plusieurs campagnes du Sinaï. Et puis chaque fois, il y a un phénomène d'aller-retour à qui ça appartiendra, à Israël, à l'Égypte, à Israël, à l'Égypte. Vous remarquez, c'est-à-dire, l'histoire hésite encore. C'est pas fini ce problème. Hein? Vous suivez les nouvelles, comme si l'histoire commente la Torah. Et la majorité des poskim, c'est-à-dire les décisionnaires, indiquent que le Sinaï ne fait pas partie de l'État d'Israël. Il y a des discussions de savoir et où est donc la frontière exacte. Bon, cela, c'est un autre problème. Mais une minorité de décisionnaires, dont Judas Lévi, dit le Sinaï fait partie de l'État d'Israël à cause de ce verset, qui mit Tzion, etc. Et puisque la Torah a été donnée au Sinaï, c'est qu'elle fait partie de Tzion. C'est que le Sinaï fait partie de Tzion. Je vous signale que, je ne sais pas s'il y a des expansionnistes parmi vous, comme on dit, c'est la minorité des postulats. C'est pas l'opinion retenue par la majorité. Mais nous attendons la décision de l'histoire. Quel sera le psaque de l'histoire? Finalement, on verra dans les années qui viennent. Et c'est un autre problème, je referme la parenthèse. Le principe que nous allons prendre pour mieux comprendre la dialectique qui apparaît dans ces midrashim, c'est ceci. Il y a une différence entre a priori et a posteriori. A priori, il n'était pas nécessaire de passer par le Sinaï. Mais puisqu'il y a eu des raisons qui ont fait qu'il était nécessaire de faire ce détour, alors a posteriori, on va nous enseigner les raisons très importantes de recevoir la Torah au Sinaï. Est-ce que c'est suffisamment clair? Mais pour élargir un peu ce problème, c'est toute la structure du livre de l'Exode, du livre de Shemot qui est en question dans ce problème. Avec une question simple. Quel était l'objectif de la sortie d'Égypte? Aller au Sinaï, recevoir la Torah. J'ai fait allusion un peu à cela hier. Okay? Et après, une fois qu'on a reçu la Torah, eh bien, on peut aller n'importe où la pratiquer. Et pourquoi pas en Eretz Israël? Ça dépend du Messie. Okay? C'est une thèse que je ne partage pas, mais qui est très répandue aujourd'hui, en particulier en France. C'est la thèse officielle du judaïsme religieux de la diaspora. On est sorti d'Égypte pour aller au Sinaï, recevoir la Torah. Et ceci dit, eh bien, on peut être juif à Chicago, à Brooklyn, où on voudrait, à Johannesburg. Okay? Et pourquoi pas à Jérusalem? Et vous comprenez l'humour noir de cette thèse. Je ne sais pas si c'est une sainte thèse. Mais la deuxième thèse, qui me paraît plus évidente et plus normale, c'est, d'après le récit de la Torah, réaliser la Bible. Okay? C'est que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'était d'aller en Eretz Israël. Et quand on n'était pas capable d'y arriver directement, alors il a fallu faire un stage au désert pour recevoir la Torah. Une espèce d'apprentissage. Un peu comme on pourrait dire, avant d'être sage, il faut être apprentissage. Et je ne sais pas si je vous étonne dans la schématisation de ces deux thèses, mais vous comprenez bien qu'il y a entre les deux incompatibilité. C'est où ça? Où ça? D'un point de vue théorique, en tout cas. Du point de vue existentiel, nous sommes tous partagés un peu entre les deux thèses. Mais ça, c'est les générations de transition. Et il est bien évident qu'un tri se fera à la longue et qu'il risque d'apparaître, il ne faut pas le souhaiter, mais il risque d'apparaître un schisme radical entre les tenants de ces deux thèses différentes. Est-ce que vous comprenez l'importance du problème? Or, c'est précisément cette hésitation d'identité que la Torah nous raconte dans notre texte. Et si vous voulez... Ah non, vous n'avez pas les Chumashim. Enfin, vous prendrez le début de la paracha de Vaera, je vais vous donner la référence du verset. Et vous l'étudierez par vous-même. C'est au chapitre 6 de l'Exode, à partir du verset 2. Et nous avons là un texte très clair qui explique... je vais essayer qu'à partir de demain, vous ayez tous des chumashim, ou si vous en avez chez vous, apportez-les, le livre de l'Exode. Okay? En hébreu ou en français, donc ce début du chapitre 6 de l'Exode explique très clairement quel est l'objectif de la sortie d'Égypte. L'objectif de la sortie d'Égypte, c'est de quitter le monde ancien de l'exil, traverser le désert qu'il y a entre l'être ancien et l'être nouveau, et puis arriver à l'être nouveau d'Eret Israël. Et il n'y a aucune allusion au fait qu'il soit nécessaire de passer au Sinaï pour recevoir la Torah. C'est donc que c'est a posteriori que c'est devenu nécessaire. Quelle est la raison de cette a posteriori? C'est qu'il y a toute une partie du peuple, les trois premiers niveaux, qui ne sont pas assez forts pour cette sortie. Elle leur est imposée. Elle leur est imposée absolument dans la première partie du peuple. Vaï, Béchalach, Paro et Aram. C'est le pharaon qui les a forcés. Expulsion. Shiluchin, ça veut dire divorce, ça veut dire expulsé. La deuxième est sortie d'elle-même, mais la première difficulté, elle revient. Vous vous rappelez ? La troisième pense que c'est une guerre perdue à l'avance, mais qu'il faut faire. Et puis, on mourra dans l'honneur, dans la guerre. Okay ? Mais oui, jusque-là, il y a encore incapacité. La quatrième, c'est qu'on peut peut-être prier. Mais c'est un manque de foi, de croire qu'il faut prier pour obtenir ce que Dieu a promis. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Ça paraît paradoxal, mais on étudiera ça plus en détail. Okay ? Et puis la cinquième, c'est que, puisque déjà on est sorti, eh bien il faut avancer. Voilà à peu près le problème. Mais oui, il y a là beaucoup d'autres midrashim qu'on n'aura pas l'occasion d'étudier cette fois-ci, qui comparent tous ces problèmes à une naissance, à un enfant qui est dans le sein de sa mère, et puis qui finalement, va-t-il naître ou ne va-t-il pas naître ? Okay ? Et vous voyez, ce courage qu'il faut pour naître. Et puis alors, à partir du moment où déjà la tête est sortie, où déjà, si vous voulez, il a commencé à naître, et alors qu'est-ce qu'on fait ? On revient au sein maternel, où on a le courage de sortir, et on peut imaginer cette angoisse, cette panique de l'enfant, qui, s'il prenait conscience de lui-même au moment de la naissance, serait affolé de savoir dans quel monde il va rentrer. Et il pourrait dire exactement comme auront dit les Hébreux, en tout cas une partie d'entre eux, on était si bien dans l'Égypte maternelle. Oui, à peu près le problème. Bon, et Moïse va se heurter à tous ces problèmes à la fois. Et alors, je vais donc au verset, oui. Ah oui, absolument. C'était vraiment une galoute. Sinon, du point de vue d'une promesse qu'on avait gardée dans la mémoire. Oui. Et c'est vraiment une situation très... Non, et ça a été les 2000 ans de notre exil à nous, à partir de la destruction du deuxième temple, où la métropole a été détruite, et nous n'avions de référence à la métropole que sous forme d'une promesse venue de la mémoire et qui impliquait une espérance pour l'avenir. C'est très analogue. Ah non, pas du tout, ce serait l'inverse. Il n'y avait pas d'hébreux en Eretz Israël pendant que la famille Jacob était en Égypte. Mais s'il y avait eu des hébreux en Eretz Israël, ils auraient été beaucoup plus Israël que ceux qui étaient obligés de passer le stage du Sinaï. Parce qu'ils n'en auraient pas eu besoin, c'est ça.
Mais non, le désert, c'est contraire.
Mais on va nous expliquer, a priori, c'est une... Comment vous dites ?
Une faille.
Oui, mais a posteriori, c'était nécessaire. C'est pour ça que j'ai introduit ce principe important dans le Midrash, qui va peut-être nous aider à mieux comprendre ces textes. « Minechat hila et bediavad. » A priori, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il faut aller faire un camp de vacances de 40 ans au Sinaï pour apprendre la Torah avec mon cher Rabbeinu comme Madrir. Notre histoire avait un tout autre sens. Il faut mettre fin à la phase embryonnaire de l'Égypte pour naître au monde de la promesse. Mais voilà qu'il a fallu apprentissage. Alors, a posteriori, on va nous expliquer l'importance de cet apprentissage. Vous voyez, c'est clair ? Mais alors, c'est que je n'ai pas compris la question, peut-être.
Je n'ai peut-être pas compris la réponse.
Non, c'est a priori ou a posteriori.
Il y a deux éléments. On y a Abraham, qui est évidemment les deux amis, pour Israël. Mais il y a aussi le rapport à la terre, parce que la terre n'est pas le lieu où on est né. C'est à dire qu'on dit que l'Égypte, c'est la terre où on est né, en tant
qu'esclave. Ah, d'accord, oui, mais je crois qu'il faut recommencer à Abraham. Il y a une erreur, peut-être j'en ai parlé à un dernier séminaire, je ne sais pas quelle année. Il y a quelque chose, vous voyez, à quel point nous avons besoin de la mémoire. Et quelque chose qu'on oublie, c'est qu'Abraham était en exil en Mésopotamie. Et qu'il avait dans sa mémoire la terre d'Israël, qui était l'héritage de Shem. Voilà à quel principe ça se rattache. Et c'est pourquoi quand Dieu lui dit, je t'ai donné rendez-vous chez moi, c'est Dieu qui parle, Abraham sait où il faut aller. Sinon ce serait très mystérieux ce texte. Dieu lui dit, rendez-vous là où tu sais. Et puis Abraham se dirige tranquillement vers Eretz Canaan. Donc il sait où aller. Il se rappelle où était la terre des Hébreux, comme dira Joseph par la suite. Et la terre des Hébreux, c'est la terre d'où Abraham était exilé en Mésopotamie. Et ça se rattache à un principe. Est-ce que nous avons déjà parlé de cela ? Bon, il faut retrouver cette donnée. Abraham l'Hébreu.
Qu'est-ce qu'il fait en Mésopotamie? Il est en mission hébraïque d'exil dans la civilisation du temps. C'est le principe que je voulais rappeler. Chaque fois qu'il y a une civilisation en élaboration, Israël est en diaspora dans cette civilisation. Et d'où cette dialectique, le temps de gestation au sein de la civilisation du temps, et c'est le sens Obar de Ivry. Nous sommes en gestation embryonnaire dans la civilisation du temps, chaque fois. Arrive le moment de l'accouchement. Et c'est là que notre texte intervient pour nous expliquer les difficultés. C'est-à-dire, le schéma général que nous avons étudié l'année dernière dans un séminaire que nous avons fait ensemble, Michel Prince et moi, sur Hanouka. Le schéma général est que l'histoire du monde va traverser quatre empires, quatre grandes civilisations. Et à ces quatre grandes civilisations correspondent quatre exils d'Israël, trois à l'extérieur et un à l'intérieur du pays. Je vous les rappelle. Il y a d'abord eu la civilisation de Babel. De la civilisation de Babel, c'est Abraham qui sort tout seul. Okay. Et ensuite, il y a comme annexe à la civilisation de Babel, l'Égypte, qui était une annexe de Babel. De l'exil d'Égypte, c'est Israël, le peuple d'Israël qui sort sous la direction de Moïse. Ensuite, il y a la grande civilisation perse. De la civilisation perse, c'est Ezra et Néhémie qui sortent avec la Shivat Zion pour fonder le deuxième royaume de Juda. Vous vous repérez historiquement. Ensuite, il y a la grande civilisation grecque. Et là, il y a le cas particulier de l'exil d'Israël sur sa propre terre, au temps de la civilisation grecque. Et ensuite, la civilisation romaine. Et alors, de cet exil de la Grèce, qui est très particulier, nous sortons avec les Maccabées. Okay. Avec Matatiaou. Et ensuite, il y a la civilisation romaine de laquelle nous sommes en train de sortir maintenant. Et c'est la dernière du schéma des prophètes d'Israël. Okay. Et vous voyez donc le schéma général. Alors, on le reprend à l'origine. Je n'ai pas dit la civilisation romaine de laquelle nous sortons avec Herzl, mais j'aurais pu le dire. Je n'ai pas dit, mais vous l'avez entendu. Et à l'origine, Abraham est effectivement un homme de la terre d'Israël en mission d'exil en Mésopotamie. Pourquoi notre histoire commémorée ne commence pas à la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, mais à la sortie d'Égypte, c'est un problème très important. Vous voulez qu'on en parle maintenant? Bon, il y a au moins, je pense, deux raisons fondamentales. D'abord parce que la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim est irréversible. Elle a réussi. Alors elle n'est plus à être commémorée. C'est un premier principe. Oui, nous n'avons pas dans le calendrier une référence à la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, et pourtant, ça aurait pu être l'événement de référence par excellence. Ça commence avec Abraham. Non, aucune allusion. Dans une religion mythique, Abraham aurait été le héros médiateur. L'histoire d'Abraham aurait été le mythe fondateur. Mais nous ne sommes pas une religion mythique. Nous sommes une histoire. Cela nous mène à la deuxième raison. C'est qu'Abraham est un homme unique. Et alors que sort d'Égypte une nation. C'est l'identité collective d'Israël qui commence à la sortie d'Égypte. Et c'est pourquoi c'est notre commencement absolu. Et ça se relie d'ailleurs à la première raison, comme vous comprenez. Parce que, c'est pour évacuer ce qu'on pourrait appeler, de façon un peu plate d'ailleurs, le culte de la personnalité. C'est la grande différence. Mais n'oubliez pas le premier principe. La sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim est irréversible, réussie. Il n'y a pas place pour la commémoration pour un événement qui est complètement intégré. C'est-à-dire, la manière de s'en rappeler, c'est de ne pas avoir à s'en rappeler. C'est-à-dire, c'est intégré, c'est devenu mon identité. Ma mémoire est devenue moi. Tandis que la sortie d'Égypte est un point de départ irréversible, mais inachevé. Et nous avons à le commémorer, c'est-à-dire à le réaliser de plus en plus. Mais, en tant qu'événement collectif, il est irréversible, mais inachevé. C'est pourquoi il nous est raconté, et c'est pourquoi il nous est donné à commémoration. Commémoration, ce n'est pas simplement se rappeler d'un événement comme passé, mais commémoration, c'est de se rappeler d'un passé comme promesse d'un futur, si j'ose dire. C'est tout le problème du Zecher.
Bon. En quoi est-ce que la fin de l'exil d'Abel et d'Abraham est terminée.
Écoutez, la mutation de l'identité humaine à travers Abraham, elle est radicalement irréversible. On quitte le temps de la religion naturelle pour accéder à la religion monothéiste. Je vous ai dit des mots très formels, simplement pour indiquer qu'il y a une mutation radicale. Okay? Jusqu'à Abraham, la religiosité humaine, elle est une religiosité naturelle de reconnaissance des déterminismes naturels comme force divine. Et c'est la religion païenne qui a sa propre ferveur, mais c'est une religion sans espérance. On ne trouve pas ce qui fait l'essentiel de la foi qui commence avec Abraham, l'espérance du salut. La piété, ça consiste à s'asservir au conditionnement naturel. Et toutes ces religions qui ont eu leur grandeur, les modernes sont incapables d'apprécier la grandeur de ferveur qu'il pouvait y avoir dans ces religions dites païennes, ont tout un mythe astrologique à la base. Okay? C'est-à-dire la prise de conscience que le monde est soumis à un processus de fonctionnement cosmique et que c'est cela la traduction de la divinité. La divinité, c'est les lois de la nature. Les modernes ont tellement laïcisé ce principe que finalement ils en ont évacué toute la ferveur spirituelle qu'il pouvait y avoir chez les païens. Au fond, le matérialisme contemporain, c'est la même chose comme mentalité que la religion païenne, mais avec en moins toute l'épaisseur énorme de poésie et de spiritualité que les païens avaient et que les philosophes matérialistes ont perdu. Mais c'est la même idée, je veux dire la même catégorie. Okay? C'est que la vie humaine est soumise à des déterminismes matérialistes. C'est la même mentalité. On pourrait illustrer cela par énormément de textes. Pourquoi, par exemple, lorsque le pharaon commence à rêver, il ressemble presque à un hébreu en rêvant. Okay? Il rêve un détraquement des lois qui président à l'économie égyptienne. Aucun des sages de l'Égypte n'arrive à lui expliquer son rêve. Pourquoi ? Parce que l'idée qu'il puisse y avoir un détraquement dans les déterminismes fût-ils économiques ne peut pas entrer dans la tête d'un marxiste orthodoxe. Vous voyez, j'ai fait un court-circuit, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est impensable.
On a l'air
hébreu. Nahon. C'est pourquoi j'ai dit, il est presque hébreu ce pharaon-là. Alors, Joseph se dit, ben ça y est, on va faire mariage. Cette civilisation va peut-être... s'hébraïser, il se trompe. Mais enfin, il y avait de quoi se tromper.
Okay.
Attendez une minute. Hey, il faut un petit juif, j'allais dire, c'est un petit hébreu, Nahar Ivri, il explique ce rêve tchik-tchak. Pourquoi ? Parce que pour un hébreu, ça va de soi qu'il y a une volonté libre qui peut faire éclater les conditionnements déterminés. Vous voyez, c'est le choc de deux mentalités. L'une qui est celle d'une religion matérialiste dialectique pour qui... l'idée d'un détraquement de l'économie est impensable, et que si ça arrive, il faut chercher le coupable. Ça veut dire que c'est les faits qui se trompent. L'idéologie ne peut pas se tromper. C'est la mentalité orthodoxe, dans le sens étymologique du terme. Pour une mentalité orthodoxe, quand les faits démentent l'idéologie, c'est les faits qui se trompent, et on se venge sur les juifs. Mais l'idéologie ne peut pas se tromper. Vous voyez de quel genre de mentalité il s'agit. Alors que un enfant hébreu peut expliquer ce rêve très facilement. Le Midrash nous a d'ailleurs gardé les explications que donnaient les sages de l'Égypte au pharaon. Et ce sont des explications de type matérialiste historique. Alors que cette idée qu'un facteur d'indifférenciation d'une volonté libre peut intervenir dans le fonctionnement du monde, ça commence avec Abraham. Et ça, c'est la foi des Hébreux. Alors, avec Abraham, il y a une mutation religieuse radicale. Jusque-là, c'est la religion naturelle. À partir d'Abraham, c'est la religion dont parle la Bible. Qu'au-delà du fonctionnement des lois de la nature, il y a la volonté libre du créateur de ce monde qui fonctionne selon les lois de la nature. Et seul l'hébreu est relié à ce Dieu-là. Tous les autres sont reliés aux divinités naturelles, qui ne sont pas rien. Ce sont les modernes qui sont incapables de diagnostiquer de quoi parlaient les païens quand ils parlaient de leur Dieu au pluriel. Okay? Je vais vous donner un petit exemple qui m'a beaucoup frappé dans mes propres études quand j'étais encore au lycée. Je crois que je vous ai déjà raconté ça, parce que ça c'est resté dans ma mémoire. J'étais en classe de 6e. Et vous savez, en classe de 6e, en histoire, je ne sais plus si c'est en littérature ou en histoire, ça c'est en histoire, et on étudie les peuples de l'Antiquité. C'est encore le cas dans les programmes. Donc, on rappelle à l'époque, on avait un gros manuel, Malé et Isaac, je ne sais pas si ça, ça existe encore, le Jules Isaac, là. Et alors, on étudiait les Égyptiens, les Grecs, les Hittites, les Aztèques, je ne sais pas quoi, et les Hébreux. Moi, par hasard, enfin pas par hasard, en même temps que j'allais au lycée, j'allais au Talmud Torah. Les Hébreux, ça me disait quelque chose. Alors, il est arrivé une coïncidence, on a eu à la composition les Hébreux. Vous devinez que le professeur a été étonné du résultat. Et c'est d'ailleurs ce jour-là qu'il a appris que c'était un Talmud Torah. Il ouvrait des yeux comme ça. Genre. Et alors, la réaction que j'ai eue dans ce cours-là, c'est que si les historiens modernes étaient capables de dire une telle somme d'énormité sur les Hébreux, il n'y avait pas de raison que lorsqu'ils parlaient des autres contemporains des Hébreux, il n'y avait pas autant d'énormité. Vous comprenez? Je pense que c'est clair. Et en particulier les Grecs. On nous présentait les Grecs comme des géants de la culture dans tous les domaines. Dès qu'il s'agissait de la vie spirituelle, ça devenait débile. J'ai pas comment dire, débile. Okay? Alors, ça passait pas. Il y a quelque chose qui tourne pas. Jusqu'au moment où je suis arrivé à la conclusion, c'est que tout simplement les modernes n'arrivaient pas à comprendre la spiritualité des anciens. Ils arrivaient à comprendre ce qui restait comme trace de civilisation matérielle, donc la grandeur des Grecs dans l'art militaire, dans l'art oratoire, dans l'art, l'architecture, etc., l'art. Mais dès qu'il s'agissait de l'âme grecque, ça leur était complètement hermétique. Alors, la réaction du moderne, c'était de traiter les anciens de débiles, mais c'était les modernes qui étaient débiles par rapport à la sagesse des anciens. Parce qu'entre-temps, c'était produit un phénomène d'hermétisme, d'occultisme. C'était occulté, comme on ne comprenait pas. Jusqu'au jour où Freud s'est levé. Et puis Freud a donné une analyse d'un des mythes grecs. Et je fais allusion au complexe au problème des mythes. Et subitement, le monde entier étonné s'aperçoit que derrière ces mythes infantiles, il y avait de la sagesse. Sagesse impure, mais sagesse. Alors, voilà ce que je voulais expliquer. C'est que les modernes ont complètement perdu expérience de ce que pouvait être cette religiosité d'avant Abraham qui a continué autour des Hébreux longtemps, jusqu'à ce que ça ait fini par disparaître. Mais vous savez qu'en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, ça continue à être vivant, cette relation à la divinité naturelle. Mais pour un moderne rationalisé par les latins, par le romain, par le latin, eh bien, c'est complètement aberrant. Je veux dire, ça n'entre dans aucune cohérence intellectuelle. J'ai fait un petit peu allusion à la conférence de M. Roski hier soir à cela. Par exemple, l'idée qu'il puisse y avoir une relation entre les phénomènes naturels du monde extérieur et ce qui se passe dans la conscience intérieure de l'homme est une idée aberrante pour l'occidental, alors que c'est un des fondements de la sagesse pour l'oriental. Vous voyez à peu près le problème. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit qui a fait que le ciel s'est couvert, mais ça va peut-être s'arranger tout à l'heure. Et voilà à peu près le problème. Alors oui, pour répondre à votre question, la sortie d'Abraham de Ur-Kasdim est un commencement absolu, irréversible, réussi. Il n'y a plus à commémorer. Nous sommes les Hébreux depuis Abraham. Cette identité hébraïque existait avant, mais elle était clandestine. Elle sort, elle émerge avec Abraham. C'est irréversible. Nous avons eu des précurseurs d'Abraham. Et vous savez, j'aime pas beaucoup ce mot de précurseur, parce qu'il est péjoratif. Autant de ces précurseurs, entre guillemets, d'Abraham, c'était eux les héros de la foi. Mais la mutation avec Abraham les renvoie à la préhistoire. Ils n'étaient pas précurseurs d'Abraham, seulement ils étaient eux-mêmes. Mais c'est au niveau d'Abraham que la mutation radicale se produit. La sortie d'Égypte est une mutation très importante, mais qui est en cours de travail. Parce qu'avec Abraham sort un homme et sa famille. Mais de l'Égypte sort un peuple. Et l'interpellation au niveau d'un peuple est considérablement plus difficile à résoudre que l'interpellation au niveau d'un individu. Vous voyez, toutes ces raisons jouent à la fois. Nous attendons la dernière Pâque, comme diraient les chrétiens, qui ont cru qu'elle était arrivée il y a 2000 ans. C'est-à-dire, nous attendons la dernière commémoration de la sortie d'Égypte, qui sera la mutation messianique. C'est-à-dire que le processus qui a commencé à la sortie d'Égypte aura été intégré, achevé. Cette libération aura réussi
définitivement, elle n'aura plus à être commémorée. On s'en rappellera. On n'aura plus à la commémorer. On sera passé à un stade ultérieur. Et tout se passe comme si, si vous voulez, pour une partie du peuple d'Israël, c'est le cas aujourd'hui. Que cette histoire qui a commencé à la sortie d'Égypte et qui s'appelle la Galoute s'achève. Et que nous passons à... Bon, je referme la parenthèse, je pense que c'est suffisamment clair. Donc, peut-être que je reviens sur ce point-là. Et peut-être je vais demander, j'espère qu'on le fera, qu'on vous prépare des textes à ce sujet. C'est que, ou bien je dirais simplement de mémoire, pour donner un exemple. C'est ce fait-là, faire la preuve de l'identité Israël selon la volonté du Créateur à l'échelle d'un peuple est une tâche surhumaine, inconsidérablement plus difficile que toutes les autres stratégies possibles, à l'échelle d'individus qui seraient les saints, les justes de l'humanité, à l'échelle d'une église, nous dirions une synagogue, okay, mais à l'échelle d'un peuple, d'une nation, avec ses fendeurs de bois et ses porteurs d'eau, comme dit la Torah, okay, avec tous dans un peuple, faire la preuve qu'un peuple en tant que tel est Israël, ça c'est le défi que la Torah nous donne et qui est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que si nous n'étions qu'une communauté de saints, eh bien, une sélection naturelle de sainteté ferait que ne font partie de la communauté des saints que des saints. Je pense que vous comprenez. Mais un peuple, c'est autre chose. Un peuple, c'est tout le monde. Et il y a là la preuve à l'échelle de l'universel. Alors que dans une église, une confrérie sainte, fût d'ailleurs une communauté de chassidim, et que ça, eh bien, c'est la preuve à l'échelle des élites. Mais c'est pas ce que le Créateur cherche. Ce que le Créateur cherche, c'est la preuve de la sainteté à l'échelle d'un peuple, d'une nation, et non pas d'une somme d'individus qui serait la communauté des saints. Ça, c'est la formule chrétienne. L'église. Et quand la synagogue commence à imiter l'église, c'est l'échec. Et d'ailleurs, on n'y arrive pas, si vous remarquez. On n'y arrive pas. Parce qu'on ne peut pas, nous n'avons pas la même histoire, le même projet d'identité, la même interpellation. Et il y a un...